pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Une odeur épouvantable, vous savez, l'odeur de putréfaction, etc.
Les premiers morts que j'ai vus, ça a été sur le chemin qui mène à la ferme de la Hortelière, en bas, là. Ça devait être M. Didelin, qui avait son vélo et une remorque derrière son vélo. Dans la remorque, il y avait deux de ses enfants, vers 7 ans, 9 ans, dans ces âges-là. Et ils étaient tués dans la remorque d'une balle dans la nuque. Et le père était tué à côté de son vélo.
Salut tout le monde, ils étaient enfants en 1944, ces habitants du petit village de Maillet qui témoignent pour les documentaires Le Massacre oublié et l'autre 25 août 1944. Bienvenue à vous dans le quatrième et dernier épisode de cette série dédiée à ce drame peu connu qui se déroule à Maillet, très banal petit bourg campagnard de la région centre au sud de l'Indre-et-Loire. Et c'est justement ce qui est frappant, Maillet, ça pourrait être n'importe où. 25 août 44, alors qu'on libère Paris, 124 hommes, femmes et enfants sont assassinés par des SS, et cette tragédie tombe dans 50 années de silence, sans que l'on sache qui a commis le crime, ni qui l'a ordonné. Jusqu'à ce que votre invité d'aujourd'hui, l'historien Sébastien Chevreau, ne commence, en 2004, à mener une passionnante enquête historique et presque policière sur la piste des coupables. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Sébastien Chevreau qui vous explique comment travaille un historien pour faire une histoire rigoureuse, une histoire parfois en contradiction avec les mémoires populaires de l'événement, des mémoires qui vont se construire sur un demi-siècle de silence, de non-dits, de tabous, de douleurs, de tristesse. Des mémoires qui, en l'absence d'histoire, vont combler comme elles peuvent cet abysse de silence.
À la maison, souvent, j'avais des crises. Hein. J'avais je tombais dans des précipices la nuit. Donc, je criais et maman venait me prendre. Très gros cauchemar. Oui, j'en ai eu longtemps jusqu'à...
On n'avait plus rien à dire. Maman, entre nous, on n'en parlait pas. Ça nous avait assommés pour toujours. Quoi.
Peut-être il y a une mentalité paysanne aussi de dire on a ça en soi, mais ça ressort pas. Quoi. On ravale.
Et on n'en parlait pas. Non. Où il en était question, c'est quand il y avait la cérémonie, puis que le prêtre, il prêchait, puis qu'il disait son petit « bon, puis ça va bien ». Et puis, comment que je vais dire, il y a des choses que papa n'acceptait pas, parce que quand il prêchait le pardon. Papa, c'est une chose, le mot pardon, non. Il disait non, on ne peut pas pardonner à des fous. C'était des fous. Hein ?
Et vous ?
Non.
Non plus.
Ah non. Non, je mourrai. Et je dirais, on a beau me dire, mais Morissette, c'est pas beau, c'est pas... Non, je ne pardonne pas.
Morissette Charpentier avait 9 ans ce 25 août 1944, le jour où à Maillet, des SS assassinent sa mère et son petit frère. Mais qui sont ces soldats? Qui les commande? Ces questions, les habitants de Maillet ne vont pas en débattre pendant 50 ans. Jusqu'à ce qu'en 2004, votre invité, l'historien Sébastien Chevreau, ne démarre une enquête que nous avons vue piétiner lors du dernier épisode de cette série, mais aujourd'hui, stupéfiant coup de théâtre. Avant de reprendre le cours de cette palpitante histoire, une pause musicale qui n'a rien à voir avec le sujet, même si elle est datée de cette même année 44, à des galaxies-lumière du petit bourg de Maillet. Une poignée de jeunes parisiens jouent les zazous en écoutant du swing.
Jusqu'ici sur Terre, un homme pouvait être blanc ou noir ou jaune ou rouge, et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître, c'est les zazous. Un faux col qui monte jusqu'aux amygdales, avec un veston qui descend jusqu'aux genoux, les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale, voilà le zazou, il y a des zazous dans mon quartier. Moi je suis déjà à Poitiers, à votre tour un de ces jours, vous serez tous zazous comme eux, car le zazou c'est contagieux. Ça commence par un tremblement, qui vous prend soudain, brusquement, et puis on pousse des hurlements. Si vous rencontrez un jour sur votre passage un particulier coiffé d'un fromage mou, tenant dans ses doigts un poisson dans une cage, c'est un zazou, c'est c'est un anneau. Si votre épicier vous dit j'ai du gruyère, mais malheureusement il ne reste que les trous, eh ben ne supposez pas qu'il fuit dans la cafetière. Il est azou, il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à Poitiers. Un de ces jours ça vous prendra. À son futur gendre avant-hier, ma concierge disait, voyez-vous, ma fille est un bijou. Elle est encore mieux que si elle était vierge. Elle est azou, elle est azou. Et en prenant le train, j'ai vu le chef de gare qui m'a dit, mon cher, je suis plus cocu du tout. Je suis quelque chose de beaucoup plus rare. Je suis azou, il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours, ça vous prendra. À la société, devant payer sa dette, devant la guillotine, Gégène a dit, je m'en fous. Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête. Je suis azou, je suis azou. Avec une mondaine de la place Pigalle, mon ami Léon a fait les 400 coups. Ça lui a réussi, car pour ses 25 balles, il est azou, il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié, et à mon tour, un de ces jours, on finira par m'amener dans un asile d'aliénés. Entre azous, on s'y retrouvera, et c'est fou ce qu'on rigolera, quand sous la douche, on chantera comme ça. Ouais, la bisou, la bisou, la bisou.
Il y a des azous, Andrex et l'orchestre Pierre Chagnon. Et si en 1944, il y a une poignée de zazous à la capitale, à Maillé, petit bourg de campagne comme il en existe tant, on est dans un autre monde, un monde où la jeunesse a d'autres préoccupations. Pour combler le manque d'informations sur le massacre de Maillé du 25 août 1944, éclipsé pendant des décennies, notamment par les commémorations de la libération de Paris, des mémoires se reconstruisent comme elles peuvent. Et en générant parfois beaucoup de fantasmes, pourrait-il en être autrement pendant 50 années de silence et de tabou?
50 ans. On était 50 ans sans pratiquement parler. Quelques petites bribes comme ça, mais ça n'allait pas plus loin. Quelques mots.
Même avec les copains d'école
Ah, pareil. Ah ben là, c'était, je vois bien que c'était encore pire. On se retrouvait pour le 25 août, ceux qui étaient disponibles pour venir à la cérémonie du 25 août. On parlait d'avant, on parlait d'après, mais on ne parlait jamais de cette journée-là. Jamais on n'en parlait. On faisait la commémoration normalement et après c'était terminé. On n'en parlait pas.
L'historien Sébastien Chevreau vous raconte comment en 1994, les habitants finissent par rompre ce demi-siècle de mutisme. Là, je veux pas faire de la psychologie de comptoir, hein. C'est la honte d'être une victime, c'est le fait que c'est des paysans, c'est le fait que c'est des générations qui sont pas des causeux, pour qui la dignité c'est ne pas se répandre, même entre soi.
Non, c'est l'humain, tout simplement. Nous, ça nous semble peut-être ahurissant, peut-être parce qu'on est plus une société maintenant de communication. On a la même chose avec tous les poilus pendant la Première Guerre mondiale, hein. Des millions de poilus donc, mobilisés pour faire la Première Guerre mondiale, qui ont vu les pires horreurs dans les tranchées, quand ils sont rentrés chez eux, ils ne disaient rien. Même chose avec tous ceux qui sont rentrés des camps de concentration. Ils rentrent en France en 1945, ils ne disent rien.
Il y a peut-être aussi le facteur de ceux qui n'ont pas envie d'entendre.
Mais je crois, eux déjà, beaucoup d'entre eux, veulent passer à autre chose. Ils ne veulent plus en parler. Il y a une expression, on disait qu'il fallait laisser du temps au temps. Seul le temps pourra tout nettoyer dans la mémoire. C'est ce qu'on pensait. Il n'y avait pas de cellule de psychologie, il n'y avait personne. Les psys, c'était les fous. Donc la seule chose, le seul remède qu'on avait, c'était laisser le temps se faire. Il fallait attendre. Et on s'aperçoit justement qu'un cas comme Maillé, on s'aperçoit que le temps n'efface rien du tout. Voire même pire, il amplifie les choses. Alors on a des gens, oui, à Maillé, qui ne vont rien dire pendant 50 ans. Pendant 50 ans, il va y avoir une cérémonie toujours la même. Toujours le 25 août, il y a toujours une cérémonie. Mais à la sortie du cimetière, tout le monde rentrait chez soi. On ne parlait pas.
Mais le 25 août, il y a des cérémonies à Paris aussi.
Voilà, donc c'est là où il va y avoir des confusions, on va mélanger les choses. Et le 25 août, là, bon, ben voilà, on est nos petits vieux qui repartaient chez eux, qui ne parlaient pas. Mais ils ne voulaient pas en parler, parce qu'on ne voulait pas non plus remuer le couteau dans la plaie d'autres familles. On ne voulait pas parler de jalousie éventuellement qui s'était mise en place. Pourquoi une famille va être détruite et pas l'autre? C'est aussi ça. C'est tous ces problèmes de reconstruire un village détruit. Comment on fait pour reconstruire un village détruit? Quelle maison on va reconstruire en premier et quelle on va faire en dernier? Sur une construction qui a été très longue, il faut bien choisir. Et là, ça provoque obligatoirement des jalousies. On a ce couple d'Américains qui vient à Maillé.
Qui
donne plein d'objets, plein de trucs. Imaginez tous ces gamins en 1946, sont tous fringués avec des fringues Made in USA. Bah oui, mais il faut bien faire une répartition. Comment on sépare 10 paires de chaussures quand on a 11 sinistrés? Le 11e est forcément frustré. À une époque où il n'y avait plus rien. Plus de cuir. Les chaussures, c'était des chaussures en bois, c'était des sabots. Il n'y avait plus de pneus pour les vélos. C'était des cordes. Et là, tout d'un coup, on a plein de fringues qui viennent des États-Unis. Comment on fait la répartition? C'était quelque chose d'infaisable. Il fallait bien le faire. Ça provoque forcément des jalousies. Et si les habitants du village veulent parler du 25 août, à un moment donné, on est obligé de parler de la reconstruction et de l'après. Ce qui provoque aussi d'autres jalousies. Donc on préfère se taire, parce que tout le monde fait partie de la même famille. Ils sont tous cousins. Donc pour éviter les polémiques, eh bien on ne dit rien. On attend que quelqu'un va faire quelque chose. Et à Maillé, on va attendre pendant longtemps que l'État fasse quelque chose. Comme pour Radour. On a attendu que l'État allait un jour se bouger, qu'un ministre allait venir à Maillé dire « maintenant, il faut faire quelque chose ». Ils étaient dans l'attente. Physiquement, les gens de Maillé ne pouvaient pas bouger. Même je pense que physiquement, il faut pouvoir le faire, gérer ce genre d'histoire, ce genre de problème. Et en 1994, déjà, c'est le 50e anniversaire du débarquement. Et il y avait eu des grandes promotions à l'époque, en 1994. On faisait des publicités pour dire, en 1944, on leur a dit « welcome », en 1994, il faut leur dire « merci ». La joie de l'anniversaire du 50e anniversaire, du débarquement. Et à Maillé, eux, ils avaient un sentiment inverse. Pour eux, le 50e anniversaire, c'était quelque chose de triste. Ils se rendaient compte aussi que Maillé avait disparu des livres. Pas d'articles de presse. Parfois, même dans la presse locale, plus personne se déplaçait. Il y a même une anecdote de cette époque-là qui est complètement folle. Une dame que j'adore beaucoup à Maillé, qui un jour voit débarquer sa petite fille, qui lui dit « donne-moi vite le livre de l'abbé Paillon, parce que mon professeur d'histoire ne veut pas me croire qu'il y a eu Maillé ». Elle était en classe dans un lycée de Tours. Ce professeur d'histoire n'avait pas voulu qu'elle fasse un exposé sur Maillé parce que Maillé n'avait pas existé, parce qu'il ne savait pas lui que ça existait. Vous voyez, ce choc, c'est vraiment des chocs psychologiques les uns après les autres qui sont sur ces gens de Maillé. Ils ne pouvaient pas dire qu'ils étaient de Maillé puisque Maillé n'existait pas. On leur disait « ça n'existe pas ». Ou pire, on leur disait « c'est comme à côté, on a tué un résistant dans le bois d'à côté ». Oui, mais c'est un résistant, c'est un homme. À Maillé, on tue des enfants à l'arme blanche, on les égorge. On est sur une autre planète. Donc les gens de Maillé ne pouvaient pas parler. Ils étaient dans l'impossibilité physique de le faire. Et 94, ça va être une époque où la municipalité de Maillé va demander aux archives départementales de faire une première exposition sur le massacre de Maillé. Exposition qui a eu lieu au départ dans la salle du conseil municipal. Et les bénévoles vont se relayer pour surveiller cette exposition. Les gens de Maillé vont se relayer, les rescapés. Et en se relayant autour de cette exposition, ils vont aussi prendre conscience que ce sont les derniers à pouvoir parler, les derniers témoins. Et ces derniers témoins commençaient à avoir 60, 70 ans. Et ils se disaient, mais qui va nous entendre après, quand on ne sera plus là? Il faut bien que quelqu'un puisse porter la mémoire. Donc ils ont créé leur association pour le souvenir de Maillé, avec cette volonté de créer un lieu de mémoire à Maillé pour se rappeler qu'il s'était passé quelque chose. Parce qu'autrement, dans le village, on ne voit pas. Les maisons ont été reconstruites. Il n'y a pas d'endroit spécifique qui est là pour rappeler qu'il y a une destruction. Il n'y a que des maisons neuves. Alors il faut faire la déduction, s'il y a des maisons neuves à Maillé, c'est que l'ancien bourg a été détruit. Et ça, c'est très compliqué.
La stèle, qui certes fait un mètre sur un mètre, trône à 30 cm de hauteur. Il faut savoir qu'elle est là, la stèle.
Parce que y a eu cette volonté de passer à autre chose. C'est l'inverse d'Oradour. À Oradour, on va magnifier ces ruines. À Maillé, non, on va essayer de revivre, on voulait revivre. C'est aussi l'autre différence. On va essayer de se taire pour revivre et essayer d'oublier ce qui s'était passé. Et 94, c'est aussi donc cette époque où ceux qui étaient adolescents pendant la guerre deviennent des jeunes retraités. C'est la dernière génération qui peuvent parler, qui n'étaient pas des jeunes enfants, qui étaient des ados, qui ont vu les pires horreurs. Et en étant retraités, ils ont du temps à réfléchir. Et ça cogite. Et là, ils se disent, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Et il faudra attendre presque une dizaine d'années pour qu'il y ait une maturité, pour créer cette maison du souvenir, qui c'est une maturité d'un projet financier, ça coûte quand même très cher. Il a fallu une dizaine d'années pour essayer de faire un tour de table financier pour que la commune de Maillé puisse arriver à faire cette maison du souvenir.
Je crois que c'est l'après-midi que je suis allée avec ma mère pour reconnaître ses parents.
Christiane Nabineau, 10 ans, en 1944.
Et les membres de sa famille, on avait une petite cousine, Pierrette. Pierrette qui avait 12 ans, qui était entièrement brûlée. Elle était vraiment méconnaissable et je vous assure que j'ai encore le souvenir dans ce baraquement. Voir tous ces corps enveloppés dans les draps blancs. Et aussi le jour des obsèques. De voir les gens qui étaient figés, très très peinés certainement, mais on ne voyait, on n'avait pas l'impression que les gens pleuraient. Pour moi, c'était quelque chose qui me marquait énormément.
Il y a aussi un élément déclencheur dans la reconstruction de cette histoire via la mémoire, c'est la réalisation d'un documentaire, d'une collecte de témoignages par une journaliste de télé.
Marie-Françoise Gaucher, un reportage de 26 minutes précisément pour France 3 à Tours, qui va être un premier déclencheur puisqu'elle va commencer déjà à interviewer des gens et à poser des questions en Allemagne.
Quelle année là ?
2003-2004. Et un deuxième documentaire qui dure une heure et demie, là c'était une volonté davantage de la commune, de faire un film d'archives audiovisuelles. Donc tout d'un coup, on va avoir deux films en même temps qui avaient pour ambition d'auditionner des gens, les interviewer, pour faire la mémoire. D'un côté, en un reportage de télé, et de l'autre, c'est un film uniquement avec des témoignages des uns ou des autres. Comme maintenant, on a 60 heures de rush de ces témoins, parce que la mémoire audiovisuelle est peut-être plus vivante qu'une mémoire écrite. Il ne serait peut-être pas passé le temps à écrire, alors que passer une heure devant une caméra, c'est peut-être plus facile. Et pour nous aussi, c'est plus facile, presque. Mais tout au moins, de commencer à vouloir faire une émission audiovisuelle sur Maillé va être un premier déclencheur, parce que là, ça y est, on a accès à la télévision. C'est déjà ça. C'est une reconnaissance, déjà, d'avoir accès à la télévision. Ça a été aussi donc un moyen de communiquer vis-à-vis de l'Allemagne, puisque donc Marie-France Gaucher avait fait une demande d'autorisation de documents auprès des archives allemandes. Et ces archives allemandes ont demandé, ont fait passer le courrier à la justice allemande. Là, la justice allemande a déjà été réveillée. Tout d'un coup, ah tiens, Maillé, qu'est-ce que c'est? On ne connaît pas. Ils ont commencé à mettre ce dossier de côté. Et Marie-Françoise Gaucher m'a donné ses notes quand je suis arrivé à Maillé en avril 2004.
Pour occuper quelle fonction?
Responsable, chef de projet pour la Maison du Souvenir. Et j'ai repris ses notes, j'ai repris ses contacts. J'ai échangé beaucoup avec la Maison du Land de Stuttgart. Et cette Maison du Land s'est proposée de diffuser le film qu'avait fait Marie-Françoise Gaucher à Stuttgart. Donc en 2005, ben voilà, on est parti à Stuttgart pour la diffusion de ce film. Comme dans les films. Là, c'est vraiment comme dans les films. La veille de partir à Stuttgart, il était tard, je terminais mon travail à Maillé, je commence à éteindre la lumière. Et le téléphone se met à sonner. Je décroche, et puis c'était mon correspondant en Allemagne, qui s'appelait Stefan Feucht, à la Maison du Land de Stuttgart, me dit « Bah, amenez vos dossiers, parce qu'il y a des policiers qui veulent vous interroger !» Là, bon, bah tant pis, bon, bah, j'ai passé une demi-heure de plus à faire des photocopies, parce qu'il y a des policiers qui veulent m'interroger. On arrive à Stuttgart le lendemain, on fait la conférence, et le soir, bah, après la conférence, les deux policiers viennent me voir, ils me disent « Eh voilà, on ne connaît pas Maillé !» Et voilà, de là est démarrée l'enquête sur Maillé. La réouverture du dossier de l'enquête sur Maillé, par des échanges d'informations entre journalistes, entre historiens, etc., on arrive à démontrer et à faire passer l'information. Et après, il va falloir attendre 3 ans pour que le procureur allemand, Ulrich Maas, puisse venir en France avec le commissaire Bernd Schneider pour faire des repérages physiques et puis faire un peu de communication. Et de là, on est passé à faire la une, enfin on a fait la page 3 du Monde en entier, la une des journaux, conférence de presse dans la petite salle du conseil municipal de Maillé, où tout d'un coup on avait 13 caméras de télévision. Donc ça c'était en juillet 2008. Et l'année suivante, Nicolas Sarkozy, président de la République, qui est venu à Maillé pour inaugurer la Maison du Souvenir.
La France a commis une faute morale. C'est cette faute qu'au nom de la nation tout entière, je suis venu reconnaître et réparé aujourd'hui. À côté des massacrés d'Ouadour, des pendus de Nîmes, des suppliciés de Tulle, à côté des fusillés pour l'exemple, des otages de Châteaubriand, à côté des déportés exterminés dans les camps, à côté de ceux que la Gestapo assassina après leur avoir fait subir les plus horribles tortures, eh bien je le dis en tant que président de la République, les morts de Maillé ont leur place dans la mémoire nationale.
Donc là, tout d'un coup, une ouverture extraordinaire. Avant, Maillé n'existait pas, vraiment absent de tout site internet. Je dis, en 2004, un seul site internet mentionnait Maillé. 2008, c'est une ouverture seulement. Tout d'un coup, on a des caméras de télévision. Et là, tout d'un coup, on a plein de gens. Et tout d'un coup, là, on fait l'histoire. Parce que tout d'un coup, on existe. Avant, on n'existait pas. 90% des livres d'histoire n'ont jamais mentionné Maillé. Même sur des grands sites de mémoire qui se trouvent en France, vous regardez les cartes, vous n'allez pas voir mentionné Maillé. Vous allez voir Oradour, vous allez voir Tulle, vous allez voir d'autres massacres dans le nord de la France, dans le sud. Maillé avait disparu. Et là, à partir de 2008, eh bien, on peut dire que maintenant, les historiens, tous ceux qui font l'histoire, s'ils écrivent sur l'été 44, s'ils oublient Maillé, c'est qu'ils font mal leur travail. Et là, je me dis, ça y est, on a réussi.
De ce jour du 25 août, là, moi, j'ai des flashs. Je ne peux pas dire que j'ai vraiment un film continu de la journée. Mais ils sont ces flashs auditifs, c'est l'oreille. Je me souviens des craquements, des craquements, des craquements.
Je croyais entendre dans ma tête de gamin de 12 ans, je croyais que ce fracas était dû aux Allemands qui brisaient tout, qui brisaient les meubles en particulier.
J'ai vaguement souvenir d'avoir demandé à ma mère « ça va bientôt fini ».
Quelle heure ça a commencé ? Aucun souvenir. Hein. Dans la matinée, on a entendu les coups de feu. Avec ma mère, nous avons été dans le jardin, nous avons parlé à l'épicière. Il nous a dit « il y a plein d'Allemands qui descendent du côté du cimetière, ils courent partout, ils tirent, et ils sont habillés de toutes les couleurs ».
Je crois que c'était une patrouille du camp de Noat qui était là pour garder le pays, mais je pense qu'à ce moment-là, la tuerie était finie. Je ne pense pas qu'ils nous auraient tués. Et puis je suis repartie dans la cave et j'ai raconté mon aventure. Et Madame Gandard a été très sévère. Elle m'a dit, est-ce qu'ils t'ont vu ? J'ai dit, je ne crois pas. Elle m'a dit, si ils t'ont vu puis qu'ils nous tuent, ben ce sera de ta faute.
Toujours en la compagnie de Sébastien Chevreau, on parle aujourd'hui de cet autre 25 août 1944, le massacre de Maillé en Touraine. Je suppose qu'en tant qu'historien, ces témoignages sont éminemment précieux.
Oui et non. Les témoignages actuels ne sont pas pour un historien une source. Ce sont des pistes de travail. La mémoire humaine, c'est comme du gruyère, c'est plein de trous. On se fait des films, on refait l'histoire. Avec l'arrivée de la télévision et du cinéma, on invente d'autres images. Notre mémoire se refait. Donc, c'est que des éléments. C'est par contre des pistes de recherche qui peuvent être intéressantes. Par contre, humainement, c'est très fort. Voilà, ça reste très très fort. Même si la mémoire change, la sincérité des gens reste la même. Quand on vous raconte comment des personnes ont été tuées, parce que là, il y a eu des témoins. À l'époque, elle était toute une jeune adolescente, en 1944. Quand elle raconte ça 60 ans après, c'est peut-être pas exactement pile poil ce qui s'est passé. Mais la sincérité est toujours là. Pour l'historien, ça ne reste qu'une piste de travail, ça ne peut pas être une source. Même pour la justice, hein, c'est voilà, on ne peut pas se baser sur des éléments qui arrivent 60 ans après, parce que voilà, la mémoire change, la mémoire bouge, les couleurs changent dans notre tête. Plein de choses changent. Mais par contre, ça peut être des éléments de travail, des pistes, en se disant, tiens oui, je n'ai pas obligé de regarder de ce côté-là. Ou peut-être que je me renseigne plus de ce côté-là ou de l'autre côté. Mais voilà. La mémoire, c'est comme ça. On a tendance à oublier, on a tendance à glorifier ou à minifier des choses.
De mettre en juxtaposition sur l'un des deux documentaires des choses qui ne sont pas à remettre en doute, parce qu'il faut faire confiance aux gens, et puis des choses qui semblent plus étonnantes à deuxième vision. À un moment, il est question d'un soldat allemand qui lance une grenade qui éclate à ses pieds et le type, la seconde d'après, tire à la mitraillette. C'est bizarre, quand on s'est fait tomber une grenade au pied, normalement, on a sauté, on n'est plus en état de tirer à la mitraillette. Ou une dame qui explique qu'elle a un éclat de grenade qui lui a traversé la joue et qu'elle pouvait passer son doigt à travers la joue. Cette dame n'a pas de cicatrice sur la joue, avec tout le respect qu'on doit à sa douleur. Mais finalement, quand on va à la maison du souvenir et qu'on voit des juxtapositions de choses avec des choses qui font pencher vers un peu le doute, est-ce que ça risque pas de décrédibiliser l'ensemble ?
C'est la difficulté d'un lieu de mémoire. Ce n'est pas que le passé, c'est aussi le présent. C'est le souvenir de ces gens-là, qu'on connaît, qui sont encore en vie, par rapport aux confrontations du passé. Ce qui est plus intéressant, c'est pour l'historien, comparer par aux témoignages écrits qui ont été recueillis après la guerre. Des histoires de grenades qu'on jette comme ça, où les gens restent en vie, je l'ai déjà dans des enquêtes de 46 où le témoignage, on l'a. Je ne sais pas vraiment là si cette histoire de grenade a explosé. Est-ce qu'il y avait un meuble qui a fait rempart des éclats. Voilà, on peut imaginer plein de choses. Mais c'est sûr, tout est là. Toute la difficulté d'un lieu de mémoire encore vivant, où on a de la mémoire des gens qui sont là, et on a encore la chance de les avoir, puisque là, on a la partie humaine. C'est pas que des livres. C'est de l'humain, c'est du concret.
Alors, en quelle mesure l'historien peut faire confiance à de l'émotionnel ?
L'historien ne fait pas confiance à des témoignages oraux. On ne peut pas. Ce n'est pas suffisant. C'est qu'une piste de recherche.
Les papiers, c'est mieux ?
Les papiers, tout dépend comment ils ont été faits. Qui l'a fait ? Quand ? Et quand ça a été recueilli ? Comment ça a été conservé ? C'est aussi le travail du historien, c'est de savoir, c'est essayer de renouer le fil de tout ça, disant, mais ce papier, qui l'a fait ? Dans quelles conditions ? À qui l'a donné ? Qui l'a conservé ? Pourquoi on l'a conservé ? Donc à partir du moment où on a fait tout ce lien-là, on a la sincérité du document. Mais par contre, le document, quelqu'un peut mentir dans le document. Donc c'est aussi notre travail de vérifier si cette personne n'a pas menti en recoupant avec d'autres documents indépendants les uns des autres. Donc c'est vraiment chercher une aiguille dans une meule de foin. Mais c'est sûr que les témoignages, c'est une piste de travail. C'est des pistes très intéressantes, importantes, mais ce ne reste qu'une piste. Mais humainement, waouh, là on en prend plein la tête.
Dans le jardin, là, il y avait 4 ou 5 Allemands qui faisaient un trou avec leur baïonnette. Ils dansaient autour, enfin, ils tournaient autour de ce trou comme les Sioux, si vous voulez. Ça rappelle un peu ça. Donc, quand on a dit qu'ils n'étaient pas normaux, c'est vrai qu'ils étaient drogués. Hein.
Les premiers qu'on a vus passer, ils avaient comme un genre d'écume de chaque côté de la bouche, là.
Moi, j'avais que 4 ans, bien sûr. Mais quand ils sont arrivés, ils étaient pleins d'écume. Ça sortait de leur bouche, il y en avait sur leurs vêtements. C'était blanc d'écume. Ça, c'est une image qui est dure à comprendre quand on n'a que 4 ans et qui nous renverse notre lait, notre bol de lait en arrivant. C'était sacré, le bol de lait, renverser un bol de lait.
On avait effrayé de voir le visage de ces hommes. Ah, ça je les ai encore présents dans les yeux. Vous aviez des gens aux yeux exorbités, absolument. C'était curieux de les voir. Et ils passaient à toute pompe.
Je suis allé chercher des extraits sonores des deux documentaires sur Maillet. Et évidemment, je suis allé chercher ce qui me semblait le plus saisissant. Et je me suis aperçu avec un peu de recul que la plupart des choses que j'avais extraites étaient peut-être les plus sensationnelles, mais pas forcément les plus exactes. J'en viens même au fait d'avoir monté une hypothèse que les troupes SS qui ont commis le massacre étaient droguées, défoncées à quelque chose. Après tout, j'avais vu un documentaire sur Arte il y a quelques années où on disait que les amphétamines avaient été massivement utilisées sur le front de l'Est, enfin qu'il y avait même des gens qui étaient dans des phénomènes de dépendance et d'accoutumance à ces drogues. Et comme il y a des témoignages dans l'un des documentaires où il est question de SS avec de l'écume sur la chemise...
Est-ce qu'il peut y avoir encore des amphétamines à cette époque-là ? C'est pas impossible. Normalement, les services sanitaires de l'armée allemande les avaient enlevés parce qu'ils s'étaient rendus compte que les soldats allemands, au bout d'un moment, ils étaient un peu trop accros et c'est dangereux d'avoir des types un peu trop drogués. Donc à partir de 1942, ils commencent à nettoyer les stocks pour plus qu'il y en ait. Normalement. Alors, est-ce qu'il leur restait de ces deux doses d'amphétamines dans certaines cantines militaires ? Ça reste une question. Alors après, entre les formes d'excitation, de formes de jeunesse, etc., sur ce témoignage, je mets aussi beaucoup de doutes. C'est pas moi qui ai fait le documentaire, c'est pas moi qui ai sélectionné ces témoignages. Alors, est-ce qu'il peut y avoir de l'alcool ? Donc, on sait que ça tisanait pas mal, en règle générale. Sauf que là, on est le matin. Est-ce qu'on va au combat en ayant beaucoup bu d'alcool ? J'ai des doutes, d'autant que je pense que si les Allemands viennent aussi fortement émaillés, aussi armés, c'est qu'eux s'attendent à ce qu'il y ait de la résistance armée dans le village. Donc, on n'envoie pas des types faire un massacre avec de l'alcool, puisqu'on s'attend à avoir une réplique militaire. Donc les mecs sont pas alcoolisés, je pense pas qu'ils soient non plus drogués. Après, par contre, ces témoignages d'écume, de choses comme ça, on ne les retrouve pas dans les témoignages écrits recueillis par les gendarmes après la guerre. Donc c'est quelque chose qui apparaît plus récemment dans la mémoire collective, qui apparaît souvent aussi sur des personnes qui étaient très jeunes à l'époque. Donc après, c'est des visions d'enfants qui peuvent aussi transformer leur mémoire en ayant vu des films à la télévision. Et on reporte les images qu'on a vues à la télévision sur d'autres choses. Ça peut être aussi une des explications.
On nous a toujours dit que c'était l'équipe folle qui avait fait Oradour et qui était sous et qui était venu un matin encercler le village et massacrer les gens. Ils ont vidé les bouteilles, ils ont dû faire plus au niveau de certaines personnes féminins. Et
là, tu parles de viol.
Certainement, en vidant les caves, bien s'amuser. Et d'ailleurs, on voit un petit peu dans le film de Noiret et puis Romy Schneider.
Dans Le Vieux Fusil.
Dans Le Vieux Fusil, on voit très bien en train de s'amuser. Donc il y a quand même cette image qui était de ma grand-mère qui était ressortie en disant bah, ils sont amusés, ils ont tué les gens, ils ont enfermé dans l'église.
Mais non, les témoignages de farfelus qu'on retrouve, mais même dès 1944, hein, dès les premières enquêtes, on a quand même des soldats allemands qui tirent à la mitraillette sur des poules. On est le 25 août 1944, les Américains sont à moins de 50 km. S'amuser à tirer à la mitrailleuse sur des poules.
Politique de la terre brûlée ?
Même pas, puisque le village d'à côté ne font rien. Donc c'est uniquement sur un village. Et pourquoi ces jeunes-là le font ? Normalement, les munitions, c'est réglementé, il faut faire attention, et il ne faut pas les dépenser, en plus il n'y en a plus beaucoup. Mais non, parce que là c'est une logique militaire qui s'impose, et là c'est pas l'historien. Le militaire, lui, il dit, vous avez le droit à 80 balles par jour en temps de guerre, en jour d'action de combat. Tous les jours d'avant, vous avez économisé des balles. Donc là, vous pouvez les utiliser de façon, on a du stock. Voire même, on utilise des armes qui avaient été saisies lors de parachutage d'armes, des armes alliées. Donc il n'est pas impossible en plus que les gens de Maillet ont été tués par des armes américaines, pris lors de parachutage d'armes, et on utilise les stocks des munitions américaines et anglaises. Ce n'est pas impossible. Comme il n'y a pas de douilles qui ont été stockées et numérotées, on ne peut pas dire avec quelles armes précisément ils ont été tués. Mais ça fait partie des choses un peu si farfelues de cette journée-là. Pourquoi on va tirer, s'amuser à tuer des poules à la mitrailleuse ? Et là, moi, c'est un témoignage qu'on a, paf, de 44, hein, c'est pas quelque chose d'inventé. Mais là, on se rend compte aussi qu'à Maillet, il y a une absence de logique à un moment donné. Il ne faut pas voir avec nos yeux de maintenant, il faut essayer dans la logique de l'époque. Donc on a vraiment des très jeunes, hein, on a des types qui ont 16-17 ans, hein, complètement désaxés, plus faire différence entre le bien et le mal, trouillomètre à zéro, et qui veulent être quand même montrer qu'ils ont qu'ils en ont dans le pantalon. On leur a appris à faire ça. Il y a cette logique quand même de bourrage de crâne. C'est censé être l'élite. C'est censé être les meilleurs du monde. On leur a dit ça depuis qu'ils sont nés, depuis des jeunesses hitlériennes. Ce sont les meilleurs, ce sont les vainqueurs, ce sont les seigneurs. Et là, tout d'un coup, ils se trouvent dans des situations où l'Allemagne est en train de perdre. Commence à avoir une sacrée déculottée. Donc là, c'est un revirement complet de psychologie qu'ils doivent avoir en tête. Ceux, la France qu'ils avaient vaincue fièrement en 1940... sont en train de les foutre dehors. Donc il y a aussi une question de vengeance contre la population française. Tout le monde sait aussi que c'est la libération de Paris, c'est un symbole. Que ce soit les gens de Maillet ou les Allemands, ils savent que c'est la libération de Paris. Il y a aussi peut-être un besoin de se venger contre l'ensemble de la population. Donc il y a quand même plein de choses assez complexes qui se mettent en place, assez fous. Tout ça fait partie des données, probablement. Tant qu'on n'a pas un rapport allemand de l'époque nous indiquant « on a fait ci, on a fait ça », on ne pourra pas dire précisément ce qui s'est passé. Mais il faut faire toujours aussi attention avec ces témoignages. Il faut essayer de le regarder avec les yeux de l'époque, avec les techniques de l'époque. Et parfois, il n'y a pas que l'historien. Il faut faire appel, donc ça faisait partie aussi de mon travail, de faire appel à des spécialistes, soit du côté militaire ou en spécialiste de justice, pour savoir comment les logiques judiciaires se mettent en place. Voilà, il ne faut pas que simplement rester, regarder que son petit bout de la lorgnette. Il faut faire aussi parfois appel à certains spécialistes, comparer les différentes sources de spécialistes. S'imaginer que 80 balles, c'est pas grand-chose en 1944 et on peut tirer sur des poules, c'est tout à fait faisable. C'est aussi stupide que ça. On peut y aller, on a des munitions, on a du stock. Et ça en fait moins à transporter, de toute façon on n'aura pas le temps, on n'aura pas les camions pour les emmener en Allemagne. Ça peut être l'une des explications pour qu'on dise qu'on tire sur des poules. Dans ces logiques complètement stupides du 25 août 1944, on a des témoignages d'époque, hein. On est sûr à 100% que j'ai pu recouper. Dans certaines maisons, où les maisons sont en flammes, où les maisons d'à côté sont en flammes, on a des soldats allemands qui mangent. Dans le café qui reste dans Maillet, qui était le café Bouté, qui est toujours le café, on a même des soldats allemands là qui vont sauver des gens. Il ne faut pas croire que non plus qu'il y a des soldats allemands qui vont sauver des gens à Maillet, en leur montrant la direction par laquelle fuir.
C'est les papas de la Wehrmacht qui sont cantonnés là, non ?
Non, parce que là on se trouve au milieu du village. Donc peut-être on est tombé sur deux types qui tout d'un coup ont eu un peu d'esprit, un côté humain qui revient sur les choses en leur disant « Non, non, il faut partir de l'autre côté. Peut-être que c'est des bons pères de famille. Là, je ne sais pas. Bon, je ne peux pas déterminer. » Mais dans ce café, on a une lettre qui a été écrite 3 jours après le massacre par une des rescapées qui a été sauvée par un Allemand qui ne comprend pas ce qui s'est passé. Et ces Allemands qui sont rentrés dans le café, alors que les maisons qui sont autour sont déjà en flammes et qu'il y a des crépitements de tirs, etc., ils mangent dans le café. Ils mangent des confitures. Est-ce que c'est logique ? Avec nos yeux de maintenant, non. Peut-être qu'ils n'avaient pas mangé le matin, peut-être qu'ils sont partis très tôt de Châtellerault, donc ils avaient faim. Mais se dire, on s'assoit et on commence à manger des confitures à 10h du matin, alors qu'il y a des petits copains qui sont en train de tuer et d'égorger des gens à côté. Là, je ne sais pas comment l'expliquer encore, cette histoire-là. Et ça, ces histoires de manger dans le village, on les retrouve dans d'autres endroits. Alors qu'il y a des
flammes. Ces gens-là, c'est des pros de la guerre aussi. Bon, une baraque en flammes, ce n'est pas ça qui les effraie.
Voilà. Ils ont fait la même chose sur le front de l'Est. Sûrement, la plupart d'entre eux ont fait la même chose. Un autre témoignage dans ce goût-là qui est assez surprenant, et pourtant, on a le témoignage maintenant, et j'ai pu le recouper avec le témoignage de la mère en 1944, qui est le même, hein, ça n'a pas bougé, et le fils n'a pas pu voir le PV de l'audition de la mère en 1944. Pourtant, ils ont le même témoignage. Tout d'un coup, il y a des soldats allemands qui rentrent chez eux dans leur maison, et la mère, qui est un petit peu une femme de caractère, répond aux Allemands qui essayent de la faire sortir, elle dit « Non, non, moi je ne sors pas, mes enfants ne sortent pas, allez me chercher un officier. » Un Allemand sort, il va chercher quelqu'un, semble-t-il, un officier. Et cet officier s'assoit à la table de la maison et commence lui aussi à manger. À manger des choses qu'il avait dans son manteau, qu'il avait probablement volé de la maison d'à côté. Il attend que ça se passe. Cette famille entend des crépitements d'armes dans tous les côtés. Et cet Allemand, avec les autres, ils ont dit « Bah, vous bougez pas. » Ils sont attendus une demi-heure. Et après, ces Allemands sont repartis. Et ils ont peut-être même tué dans d'autres maisons. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas inventer. On peut l'inventer maintenant, mais on ne peut pas l'inventer en 1944. Mais ça fait partie de ces choses qui nous semblent illogiques, complètement irréelles, c'est stupide. Mais nous ne sommes pas des jeunes SS en 1944. La difficulté est là. C'est comment se remettre à leur place, avec leurs yeux, avec leur expérience de guerre.
On va faire une pause dans cette émission, rester dans ces années de l'occupation, mais quitter cette campagne perdue et monter à la capitale où, du côté de Saint-Germain, quelques jeunes font les azous.
Les cheveux tout frisottés, le col au de 18 pieds or, ils ont des... Le doigt comme ça en l'air, le veston qui traîne par terre. Oh, ils ont des yeux. Ils ont des pantalons d'une coupe inouïe qui arrivent un peu en dessous des genoux. Et qu'ils t'avouent qu'ils mentent, ils ont un parapluie, des grosses lunettes noires et puis surtout, ils ont l'air d'écouter tous ces bruits agités. Oh, ils ont des yeux. Un jour, un brave notaire de son pays débarquant venait pour de grosses affaires de legs et de testaments. Il avait l'allure très digne, mais comme les modes de maintenant ont à peu près la même ligne que celle de 1900. De jeunes ados s'écrièrent en l'apercevant. Ce tu fais distinguer son col haut de 18 pieds. Oh, ce qu'il était vu. Il a ce brave notaire, le veston qui traîne par terre. Oh, oh, ce qu'il était dû. Il ne se doutait pas que ce digne notaire qu'il pouvait être à ce point de vue. Car tous ses vêtements lui venaient de son grand-père. Le col, le veston, tout et tout. Il fut tout étonné de se voir ainsi remarqué par tous les adieux. De retour chez lui, le notaire sidérait tous ses amis. Il marchait le doigt en l'air, mais bientôt ce fut bien pis. Cette maladie prit sa fille, sa femme, son clerc, son toutou. Enfin toute la famille, tout le monde devint azou. Dans le pays, quand ils se promenaient, on les croyait fous. En les voyant passer, les braves gens s'écriaient, tiens, là les azous. Après mûre réflexion, le docteur en consultation dit, bah, ils ont des azous.
C'est une maladie assez particulière, bientôt il n'y paraîtra plus rien. Avec une bonne cure de polka de nos grand-mères, puis se regardant, elle dit tiens. Mes cheveux tout frisottés, mon col haut de 18 pieds, mais je suis azur, oh, tout comme le notaire, mon veston traîne par terre, donc je suis azur. Et si ce n'est qu'une question particulière, je suis le plus azur d'entre nous, car ma redingote traîne jusque par terre, je dois t'en remettre, faisons couper tout.
Docteur, avec Ophélie, se tenait l'esprit de Zazou.
Ils sont Zazou, Pierre Mingot, accompagné de l'orchestre Michel Warlop en 1943. Zazou, un phénomène marginal à la capitale, à des années-lumière du village de Maillé, au fin fond de la région centre. Pendant que des jeunes essaient d'oublier la guerre, dansent, chantent, d'autres se font assassiner, et d'autres encore sont des assassins. Certains des SS qui, ce 25 août 1944, assassinent 124 civils à Maillé, ont 18 ans, 17 ans, peut-être même 16 ans. Toujours avec l'historien Sébastien Chevreau, certains de ces hommes sont sûrement encore en vie, Sébastien.
Oui, tout à fait. Ils ont moins de 90 ans, et il y en a encore probablement. Je suis persuadé qu'il en reste encore en vie. Peut-être, ils sont peut-être pas très nombreux, parce que quand même beaucoup vont mourir pendant l'année, parce que le Maillé, c'est le 25 août 44, mais la guerre dure en Allemagne jusqu'au 8 mai 45. Donc il y a encore beaucoup de soldats allemands qui vont mourir pendant cette dernière phase. Mais il n'est pas impossible que certains restent encore en vie. Et certains ont eu des parcours politiques, ça on le sait. Ils ont eu des parcours de vie, certains vont pouvoir devenir des notables.
Puisqu'on a parlé lors de la précédente émission du sous-lieutenant Schluter et du responsable de la garnison de Tours qui s'appelait Stenger, bon, la justice et les historiens se sont concentrés sur ces deux personnages-ci, mais pourquoi pas se concentrer sur des hommes de la troupe SS ?
Donc là, maintenant, c'est le travail de la justice allemande. La difficulté dans tout ça, c'est l'absence d'écrits. Stenger, Schluter, on a des écrits de leur part. Écrit dès 44. Donc on sait quelle est leur implication. Ce sont des gradés, c'est eux qui donnent des ordres. La difficulté avec les hommes de troupes, c'est l'absence d'ordre écrit. Savoir qui était sur place ou pas sur place. Donc il faut d'abord retrouver quelles étaient ces deux sections de jeunes SS qui étaient à Maillé, donc une soixantaine d'hommes, sur une troupe qui était plus de 300 à 400 encore à Châtellerault. Quelles étaient les sections qui étaient là? Et l'autre difficulté, c'est de dire c'est bien Müller qui a tué un Dupont. Si Müller, il n'a fait que tirer dans les arbres, on ne peut rien lui reprocher. Qui a tué? Précisément, qui? Et là, c'est très difficile. Et si on n'a pas d'écrit, si on n'a pas un rapport qui a été fait après la guerre en disant que telle section composée de tel type sont rendues à Maillé et ont tué ces personnes-là, ben on est bloqué. Et c'est le travail qui aurait dû être fait dès 1950. En 1950, ils étaient pas très loin d'y arriver. Puis le fait qu'on n'y a pas réussi. Mais on n'était pas si loin. On n'est passé pas très loin de cette histoire, de savoir qui avait fait quoi.
Ici, Londres. Voici notre 9e bulletin d'information. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Les girafes ne portent pas de faux col. Clémentine peut se curer les dents. Andromaque se parfume à la lavande. Le facteur s'est endormi.
Avec Sébastien Chevreau au cœur de cette série consacrée au massacre de Maillé en Touraine, je voudrais, Sébastien, qu'on vienne sur un personnage emblématique. Il y en a pas mal, hein, des personnages étonnants dans ce drame de Maillé. On pensera au couple d'Américains millionnaires, les Hale, qui viendront en secours aux populations de Maillé, en tout cas en apportant des choses. Et puis, il y a l'abbé Péan.
Alors, l'abbé Péan, c'est une histoire, c'est pareil, qui est très méconnue, parce qu'on a peu d'éléments. Un curé de village, il s'appelait Henri Péan. Curé des trois villages même autour de Maillé, donc il y a Maillé, Drachet, La Celle-Saint-Avant. Et c'est peut-être l'un des premiers résistants du département. l'un des plus importants, c'est sûrement lui qui a eu les actions militaires les plus importantes et les plus déterminantes du département. Et comme quoi on l'a complètement disparu, parce qu'on avait très peu de photos de lui, très peu d'éléments, et surtout c'est qu'il va mourir. Il va mourir sans descendance, donc assez peu de personnes pour porter sa mémoire, et peu de personnes pour connaître ce qu'il avait fait. En 1940, il est encore curé, il n'avait pas fait son service militaire. Il est embrigadé, mobilisé en avril 1940. En juin 1940, il est fait prisonnier de guerre, puisqu'il est né en 1901, donc il a presque 40 ans. Il fait prisonnier de guerre, il est libéré pour des raisons, on va dire, sanitaires en décembre 1940, et il rentre dans sa cure à Drachée, à Maillet, à Celle-Saint-Avant, et là, on sait qu'assez rapidement, il devient résistant, c'est-à-dire résistant, un opposant à l'armée allemande. Et ses premières actions d'opposant, eh bien, c'est d'aider les gens à faire passer cette ligne de démarcation qui coupait la France en deux. Donc de passer d'une frontière à l'autre. La ligne de démarcation, c'est vraiment une frontière, une nouvelle frontière qui est imposée, gardée par des soldats allemands. Eh bien, l'abbé Péan va commencer par ça, par faire passer illégalement cette frontière à des familles. Ensuite, à des personnes recherchées. À des aviateurs anglais dont leurs avions ont été abattus, il faut les cacher. Donc on leur fait passer cette ligne de démarcation. Des prisonniers de guerre évadés français, notamment des troupes coloniales. Des Noirs, des Maghrébins qui se trouvent en zone occupée, ça se voit assez facilement. Et généralement, les Allemands ne les aiment pas. L'abbé Péan et puis des amis à lui essayent de les regrouper et leur faire passer cette ligne de démarcation pour les envoyer en zone dite libre ou en zone sud, le temps que la ligne de démarcation va exister. Et le fait qu'il soit un opposant avec cette ligne de démarcation, eh bien, il va commencer à monter rapidement des réseaux avec ses proches. Et après, de fil en aiguille, il commence à connaître beaucoup de gens. Et à la fin de l'année 1943, on a déjà pu recenser plus de 18 réseaux différents avec qui il était affilié, où il faisait passer des informations. Une partie des plans du mur de l'Atlantique passe par la Touraine, par ces réseaux. Ensuite, il les envoie en Espagne, à Gibraltar, pour revenir à Londres. On a cette histoire d'une complètement folle, d'un pilote polonais qui va passer à Maillet. 42, il y servait dans l'armée anglaise. Son avion est abattu du côté de Rennes. 15 jours plus tard, il passe la ligne de démarcation du côté de Drachée. Et un mois plus tard, il est à Gibraltar. Donc un mois et demi après avoir été abattu, il est retourné en Angleterre pour continuer la guerre. Alors s'imaginer qu'un curé, fin 43, début 44, organise physiquement 3 parachutages d'armes. On a un curé en soutane qui va la nuit, en vélo, aller chercher des armes dans des conteneurs avec des amis. Et c'était qu'un curé, qui avait 40 ans, qui voulait faire quelque chose pour son pays. Malheureusement, il n'était pas discret. Et en campagne, les choses se sachent facilement. Tout le monde savait qu'il n'aimait pas les Allemands. Donc dès qu'il y avait quelqu'un qui était recherché, qui était notamment tous ces jeunes réfractaires au STO qui ne voulaient pas partir en Allemagne, ils allaient voir le curé. Et le curé essayait de leur trouver un endroit pour aller se cacher. Tout ça finissait par se savoir. Il a été dénoncé. On pourrait s'imaginer que la police allemande, c'était des professionnels. Plus on enquête sur cette histoire de l'abbé Péan, plus on se rend compte que tout au moins la police allemande, à Tours, ils ont fait quand même beaucoup de dégâts, mais ils étaient vraiment mauvais. C'était vraiment des mauvais policiers. Et s'imaginer qu'il était arrêté qu'au mois de février 1944 marque vraiment qu'ils étaient mauvais. Plus mauvais qu'on imagine, puisqu'ils voulaient l'arrêter de façon un peu discrète. Pour pas que ça sache trop, parce que quand même, un curé, c'est important. Alors, ils l'attendent à la sortie du bus à Tours. Ah mince, il n'est pas là. Samedi de février 44. Eh bien, tant pis, on va l'arrêter demain. Ils ont été l'arrêter à la sortie de la messe. Comme chose plus discrète, on fait mieux quand même. Et il va mourir sous la torture à Tours, dans les locaux de la Gestapo de Tours, pas très loin de boulevard Béranger. Une erreur de la Gestapo, parce qu'il faut être bête aussi, c'est qu'ils vont finir par le tuer. Quand on tue quelqu'un, il ne peut plus parler. Et celui qui va le tuer va se faire engueuler, il va être remonté, il va avoir des problèmes avec la justice allemande, parce qu'il ne faut pas tuer un type. Et les Allemands, après, il va falloir qu'ils s'occupent du corps. Donc ils vont l'enterrer sous une fausse identité, cimetière La Salle à Tours. Il faudra attendre 5 ans pour pouvoir reconnaître son corps. Vous voyez aussi d'autres images. La police allemande à Tours, ce ne sont aussi que des branquignoles, qui passent beaucoup plus de temps à boire ou à courir les jeunes filles. C'est 20 types, 20 Allemands. Et il y a 40 Français qui servent souvent que des indicateurs, qui vont à droite et à gauche écouter les informations. Et ils sont payés au rendement. Plus l'information est intéressante, plus ils sont payés cher.
On parle de choses nauséabondes aujourd'hui, alors je vous propose d'ouvrir un petit peu la fenêtre et de décompresser 2 minutes en revenant à nos histoires de Zazou. On est toujours sous l'occupation et il n'y a pas que les nazis que les Zazou agacent.
Avez-vous remarqué ces jolis refrains que l'on entend à la radio comme « Zouzé, 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 zé » ou encore « Digle, digle, dou, digle, dou, digle, digle, dou, di » Quelle profondeur, quelle poésie! Pour ne pas rester en reste avec ces paroliers, j'ai fait une très jolie chanson que j'ai intitulée bien modestement « Digadidou, chanson spirituelle ». Un jour je fis une chanson pour Marinette, mais je la fis à la façon de nos plus modernes poètes. Digadidou, 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 elle comprit en un instant. Digadidou, 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 que j'étais très intelligent. Digadidou, 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 elle me dit chérie c'est trop beau. Digadidou, 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 comme tu sais dire les mots qu'il faut. Quand je fus au second refrain de cette chanson spirituelle, elle eut une notion enfin de ma valeur intellectuelle. Digadidou, 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 elle dit avec du vague à l'âme. Digadidou, 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 comme tu sais bien parler aux femmes. Digadidou, 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 où donc fit-tu cette chanson? Digadidou, 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 c'est quand j'étais à Charenton. Mais les chansons ont leur destin. Un soir que je chantais la mienne, sous sa fenêtre je revins. Elle gueulait à perdre haleine. Tu m'as dit oui, tu m'as dit oui, tu m'as dit oui, tu m'as dit oui. C'était le refrain d'un jazz connu. Tu m'as dit oui, tu m'as dit oui, tu m'as dit oui, tu m'as dit oui. Je compris que j'étais cocu. Tu m'as dit oui, tu m'as dit oui, tu m'as dit oui, tu m'as dit oui. Je me croyais spirituel mais je vois. Tu m'as dit oui, tu m'as dit oui, tu m'as dit oui, tu m'as dit oui. Que j'ai trouvé plus bête que moi. Tu m'as dit oui, tu m'as dit oui, tu m'as dit oui, tu m'as dit oui. Oui, j'ai trouvé plus bête que moi.
Digadigou, en 1944, le comique Georgius n'aime pas les Zazou. Je voudrais en venir, Sébastien, à l'aspect judiciaire du massacre de Maillet en Touraine. Il y a hélas, même s'il ne faut comparer que ce qui est comparable, d'autres massacres commis, notamment, je voudrais qu'on évoque le village de Santa Anna, en Italie. Maillet, Santa Anna se sont retrouvés finalement dans l'objectif de la justice allemande.
La différence pour Santa Anna, c'est qu'on a déjà des noms. On avait des noms de soldats allemands, les unités, de façon très précise. Donc avec la justice allemande qui se remet à enquêter, donc depuis une vingtaine d'années, ils ont pu déterminer quels étaient les types qui étaient à Maillet, à Santa Anna, savoir qui était là. On entend de temps en temps un peu dans la presse ce type d'enquête, mais c'est pareil, c'est dans l'attente. La difficulté, c'est de dire, c'est bien un Müller qui a tué. C'est lui qui a appuyé sur la détente. Malheureusement, ceux qui sont encore en vie, c'était les plus jeunes. C'était les moins gradés. Donc c'est pas eux qui ont donné les ordres. Eux n'ont fait qu'appuyer sur la détente. Mais en le faisant, de toute façon, ils savaient que c'était pas bien. Ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Donc ils sont autant responsables que les autres. Il va nous manquer ce morceau de ne pas avoir pu interroger tous les responsables. Où eux, ils auraient pu nous dire vraiment ce qui s'était passé, quelles étaient toutes les logiques qui étaient en place. Malheureusement, bah voilà, on fait comme on peut, on arrive avec 30 ans de retard. C'était il y a 30 ans qu'il aurait fallu faire ce travail, mais il vaut mieux tard que jamais.
C'est pour ça que vers la fin d'année 2012, me semble-t-il, la procédure concernant Santa Anna a, je crois, été abandonnée. Mais alors, j'étais très étonné puisque là, au moment où on se parle, on est début 2013 et j'ai vu au journal télévisé il y a quelques jours qu'une action judiciaire nouvelle était en route concernant Oradour.
Moi, je sais que ça fait 2 ans que ça dure. Il y a déjà 2 ans, la police allemande avait communiqué en disant qu'ils avaient perquisitionné chez 6 anciens SS qui étaient au radeau, puisqu'ils venaient de découvrir des documents qui se trouvaient auparavant dans l'ex-Allemagne de l'Est. C'était la Stasi, la police politique de l'Allemagne de l'Est, la partie communiste de l'Allemagne, qui avait fait des enquêtes et qui avait mis les dossiers de côté contre des anciens SS. Ça servait à la Stasi, cette police allemande d'Est-Allemande, de faire pression contre des anciens soldats allemands en leur disant « Bon, maintenant, vous allez faire ci, vous êtes nos agents, autrement, je vous dénonce et on vous fait un procès. » Donc, la police allemande découvre ces noms-là et puis maintenant, ils décident de venir à Oradour pour commencer à continuer leur enquête. Et c'est sûr que les jeunes, là, enfin, les jeunes à l'époque, ont maintenant, je crois, 87 ans. Il n'en reste plus que 6. Il y a des peu de chances que ça débouche sur quelque chose. Mais le geste est là. Le geste est là, c'est pas simplement pour ces types-là, ces 6 personnes-là, ou pour éventuellement pour ceux de Maillet. C'est de se dire, à tous les conflits qu'il y a dans le monde, les gars, on va pas vous oublier. Les années passent, mais vous restez dans les archives. Il y a un jour, peut-être, qu'on pourra effrayer quelque chose, et là, vous allez mal dormir. Pour Maillet, même pour les 6 Allemands ou pour ceux de Radour, même si on peut rien faire contre eux, s'imaginer que des types à 87 ans voient débarquer chez eux des policiers allemands. Pour Maillet, il y a eu au moins 150 auditions d'anciens soldats allemands qui ont été auditionnés par la police allemande, qui n'ont pas abouti. Mais ces 150 types ont reçu chez eux des policiers, leur posant des questions sur ce qu'ils avaient fait il y a plus de 70 ans. Imaginez leur tête, comment ils ont dû dormir le soir, la tête de leurs enfants, de leurs petits-enfants, quand ils ont vu que papy, c'était pas mon brave petit papy. Non, non, c'est qu'il avait participé, il avait fait des cochonneries. On peut pas le prouver. Et au moins, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que ces petits vieux ont très mal dormi. C'est la seule chose qu'on peut faire, je crois.
On va clore cet entretien, Sébastien Chauvreau, autour du massacre de Maillet en Touraine. Et je me disais, en commençant ce reportage, je pars à la rencontre d'une histoire très localisée dans le temps et dans l'espace. Un petit bled en Touraine où il se passe un crime de masse, très localisé. Et je me rends compte qu'en parlant de Maillet, on parle de l'humanité. Enfin, il y a une dimension universelle à Maillet. Maillet, c'est l'Irak, c'est le Timor oriental, c'est partout où il y a des massacres.
C'est ce qu'on voulait faire à Maillet. On voulait surtout pas faire un lieu d'histoire refermée, on voulait faire un lieu d'humain. Ce n'est qu'une histoire d'humain, Maillet. Ce sont que des humains qui massacrent. C'est pour ça que j'aime pas trop dire que les soldats, éventuellement à Maillet, étaient peut-être drogués ou alcoolisés. C'est qu'on leur donne une excuse. Ils n'ont aucune excuse. Ils ont fait ça, ce sont que des hommes. Et dans l'histoire des humains, on se rend compte que les hommes sont capables de faire beaucoup de choses. Et le dernier panneau d'exposition, la Maison du Souvenir, c'est la liste de différents conflits depuis 1944. Et cette liste, c'est une feuille en papier. Et j'ai voulu qu'elle soit en papier parce que je savais qu'il fallait malheureusement la changer régulièrement. Parce que tous les ans, il y a des nouveaux trucs. Ce qui s'est passé à Maillet en 1944, s'est reproduit et continue de se reproduire. Il suffit d'aller en Syrie maintenant. C'est la même chose. Ce sont des hommes qui tirent sur d'autres hommes. À bout portant, qui les tue. Maintenant, c'est à nous, maintenant, société occidentale, de se dire, eh bien, on va noter des noms. Et puis, quand ça va se terminer, on va aussi juger les gens. C'est l'absence de justice qui entraîne d'autres massacres, peut-être. La Maison du Souvenir accueille régulièrement des groupes scolaires. Et c'était aussi une découverte pour moi, petit tourangeau, tranquille, peinard, dans mon petit salon, de découvrir que dans des groupes scolaires, on pouvait avoir des enfants qui ont connu aussi des crimes de guerre, qui viennent de zones où il y a la guerre, des Tchétchènes, des Kurdes, des Rwandais. Et ces gamins sont aussi scolarisés chez nous, dans nos écoles, avec nos enfants. Il faut aussi savoir l'expliquer, ça. Il faut que nos enfants puissent le comprendre. Ça se passe à côté de chez nous, puisque ces enfants sont dans nos écoles. Le temps que j'étais à Maillet, c'est 1 enfant sur 1000. Dans ceux qu'on avait repérés avaient connu une zone de guerre ou une zone vraiment de guerre où ils avaient peur. J'ai le souvenir comme ça d'un instituteur qui avait des soucis parfois avec un élève parce que dès qu'il entendait un avion, il se cachait sous une table. C'était un petit tchétchène. Il faut pouvoir le gérer, ça. Il faut que les autres enfants aussi puissent comprendre ce qui se passe. C'est pas parce qu'on est confortablement chez nous, dans notre maison, on est loin de tout ça, que ça peut pas se reproduire. Ça se reproduit tout le temps. Il y a la Syrie, il y a le Mali, il y a eu la Libye, etc. C'est aussi nos soldats français qu'on envoie là-bas. Des pères, des mères, d'enfants qu'on envoie là-bas. Et ça, c'est à nous, citoyens, de surveiller ça. Savoir que tout se passe bien et qu'il n'y a pas des cochonneries comme à Maillet qui se déroulent. C'est à nous de surveiller. Personne d'autre le fera à notre place.